Couronnez Jésus, roi.
Quel beau chant, au nom divin, nom rédempteur. On demandait un jour à un neurologue très connu, Oliver Sacks, ce qu'à ses yeux était un homme ou une femme normale. C'est peut-être un peu une question un petit peu bateau de demander qu'est-ce qu'un homme ou une femme normale. Et en sa qualité de neurologue, eh bien, Oliver Sacks a répondu un point de vue. Il a dit « Un homme normal, peut-être, est celui qui est capable de raconter sa propre histoire. Il sait d'où il vient, il a une origine, un passé, une mémoire en ordre, il sait où il est, c'est-à-dire qu'il a son identité, il croit savoir où il va, il a des projets et la mort au bout. Il est donc situé dans le mouvement d'un récit, il est une histoire et il peut se dire. » Voilà ce que donnait comme définition ce neurologue pour définir ce qu'était un homme normal. Alors il est intéressant de voir, bien sûr, qu'un homme normal ou qu'une femme normale s'inscrit dans un dessin, dans un plan, et que cet homme qui s'inscrit dans le cadre d'un mouvement est un homme normal. Le drame, peut-être, de notre société, c'est que la plupart de nos contemporains, eh bien, ne savent pas se situer dans une histoire qui a un début et qui a une fin. Et c'est pourquoi tant d'hommes et de femmes sont comme ballottés un petit peu par les circonstances de la vie, et que leur seule possibilité de vivre, ou plutôt de survivre, est d'utiliser probablement des subterfuges pour masquer leur désorientation. Alors, on a tous ces choses que les gens utilisent pour masquer justement ce manque de projet. Eh bien, ça peut être les médicaments, qui sont l'aspirine de l'âme, l'alcool, la violence, et on voit ça dans notre monde. Et que nous soyons chrétiens ou non, que nous le voulions ou pas, nous faisons partie d'un ensemble qui nous dépasse souvent, et où nous entrons finalement dans une histoire qui, encore une fois, nous dépasse, une histoire cosmique, et où nous entrons, où nous sommes confrontés avec l'absolu. L'absolu, qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Et puis, bien sûr, avec le terre-à-terre de nos vies, l'amour, la haine, la méchanceté, la bonté, le salut éternel ou la damnation éternelle. Et que nous soyons d'accord ou non avec cet ordre des choses, eh bien, elles existent et nous n'y pouvons rien. Alors, il y a, bien sûr, même, c'est la même chose pour nous, les chrétiens, eh bien... Il faut éviter, bien sûr, d'être ballotté par tout vent de doctrine. Et il y a un grand penseur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Théodore Monod, qui est un vieux monsieur qui est décédé maintenant, mais qui faisait énormément de recherches. Il allait dans le désert et il découvrait à 80, 90 ans des choses, des nouveaux animaux. Et c'était un grand penseur et qui aimait Dieu. Et il a dit une chose, il a dit... je ne suis pas favorable au syncrétisme. Vous savez ce que c'est le syncrétisme? C'est dire que tout est bien, que tout est bon. Et il a dit, le syncrétisme est chargé d'exotisme. Il y a là, dans cette pensée, quelque chose d'intéressant. Parce que une des grandes difficultés de notre époque est de croire que la fidélité, dans tous les sens du terme, que ce soit la fidélité dans nos amitiés, dans nos mariages, dans la parole de Dieu, dans la Sainte Écriture, eh bien, il est difficile maintenant de croire que la fidélité puisse être créatrice. C'est-à-dire que souvent, on pense que la fidélité est plutôt quelque chose de rétrograde, alors que la fidélité à la parole à notre conception sur les enseignements clairs qui sont donnés par la parole, notamment le salut, le baptême, la grâce, la foi, eh bien, sont des choses auxquelles il faut s'attacher. Parce que si nous dévions d'une petite chose, eh bien, nous pouvons arriver à nous tromper. La fidélité à la parole. Je lisais un livre qui s'appelle « La sixième extinction ». Pardon, et c'est un livre de zoologie. Et il y a un chercheur qui s'est inquiété de quelque chose dont personne ne s'inquiète, sûrement pas vous ni moi, c'est la grenouille dorée panaméenne. Et j'ai découvert qu'elle existait. Et ce monsieur, c'était un spécialiste de cette grenouille. Enfin, il y a des gens comme ça qui cherchent des choses. Et son truc, lui, c'était d'aller au Panama et de compter dans un certain endroit le nombre de grenouilles de cette espèce-là qui existait. Et donc, il a compté pendant des années. Et puis, deux ou trois ans après avoir fait ce décompte, il revient au même endroit, il n'y en avait plus. Du tout. Alors, il s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis des années à trouver, et en fait, c'était un minuscule champignon qui se mettait sur la peau de cette grenouille et qui transformait complètement son fonctionnement physiologique, qui faisait qu'elle mourait. Et cette espèce a disparu de la terre. Une toute petite chose a fait mourir cet ensemble de grenouilles. Tout ça pour vous dire que nous devons absolument rester fidèles à la parole et à ce qu'elle nous enseigne. Et nous ne pouvons pas dévier parfois d'un iota ou d'une virgule. Alors c'est difficile parce qu'on a toujours l'impression que la fidélité, c'est vous êtes des sacrés réactionnaires. Comment ça, vous suivez encore la Bible? Mais c'est quoi ça? Et il suffit de pas grand-chose. Hier, je me promenais sur la place à Lille et il y avait un grand panneau qui disait « Venez rencontrer les Mormons ». Et j'ai fait exprès de passer dans le en ne marchant pas trop vite pour qu'on m'arrête. Et effectivement, on m'a arrêté. Et je parlais avec un groupe de gens qui font partie de cette religion. Et je lui disais, mais vous croyez en quoi? Alors, il me demande ça, moi. Je lui dis, je crois en Jésus-Christ, sauveur des hommes, mort pour mes péchés, ressuscité, et qui me promet la vie éternelle. Il me dit, bah, c'est la même chose que nous. Je lui dis, mais et Joseph Smith dans tout ça? Alors, il s'est en birlificoté dans des explications. Je lui dis, mais c'est dommage, parce que vous croyez aussi en Jésus-Christ, mais pourquoi est-ce que vous rajoutez une chose en plus? Il ne faut pas devenir comme cette grenouille panaméenne qui va mourir parce que juste un tout petit champignon microscopique qu'on ne voit qu'au microscope peut la tuer. Voyez pourquoi la fidélité est quelque chose d'extrêmement important. Donc nous devons savoir qu'il y a peut-être deux façons de considérer les choses. Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'hommes et femmes sur cette terre? Alors, il y en a qui pensent que la vie, finalement, c'est un champ de mine entre la maternité et l'hospice. Hein, et on essaye d'éviter les mines pour pas avoir trop de soucis. Et puis, la vie peut être aussi un choix entre, bien sûr, la maternité et la vie glorieuse que nous offre notre Seigneur Jésus. Et pour chaque génération d'hommes et de femmes, il y a une décision à prendre. Pour ou contre le Christ de Dieu. Et en Deutéronome, chapitre 30, verset 19, on nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis. » L'histoire du salut dans les Saintes Écritures s'encadre entre deux visions qui constituent le prologue et l'épilogue du drame humain. La vision que nous avons du paradis perdu, nous avons quitté le paradis perdu, et la vision de la cité de Dieu, celle qui nous attend. Et souvent, nous allons perdre l'espérance. Souvent, nous regardons trop à nos pieds et nous regardons pas assez vers le ciel. Nous avons perdu parfois le sens de la gloire céleste qui nous attend. Parfois, le ciel est simplement, conçu comme un espèce de sentiment agréable et insipide. Le diable a enlevé cette espérance fascinante que sera notre vie au ciel. Cette gloire qui nous attend. Et il est là, le diable, pour nous enlever notre joie. Il va semer le doute, l'indifférence, la paresse, le fait d'être blasé et l'enthousiasme que nous devrions avoir en tant que chrétiens parce que nous savons qu'une vie glorieuse nous attend. Il y a C.S. Lewis, ce penseur anglais, qui a dit une chose, il a dit « Il est plus important que le ciel existe que d'y parvenir ». Ça veut dire que oui, le ciel et la gloire nous attendent, le jour où nous allons rencontrer notre Seigneur. Et il y a des brigands, qui volent notre joie, qui volent notre sens du merveilleux pour la cité de Dieu, qui volent notre enthousiasme. La fin de notre vie n'est pas un terminus. Ça ne s'arrête pas là. Mais c'est un projet. Nous avons en projet, par notre fidélité, par le fait que nous restons accrochés à la parole de Dieu et à ses enseignements, et bien sûr à l'amour que nous demande d'avoir notre Père pour lui-même et pour ceux qui nous entourent. Notre destinée détermine notre essence, ce que nous sommes. Nous sommes destinés à la gloire de Dieu et ça détermine notre vie. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Est-ce que nous avons un projet? Est-ce que nous avons une pensée pour l'éternité? Et notre vie, finalement, elle est un carrefour où Dieu nous rencontre en Jésus-Christ et met chacun de nous devant sa décision dernière, avec ou contre lui. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas une espèce de milieu où on pourrait naviguer là, entre deux eaux, non. C'est avec ou contre lui. Alors, bien sûr, on voit fleurir dans le monde contemporain des pensées. Pour la pensée hindoue, et surtout pour une partie de la pensée grecque, le monde est un éternel recommencement. La roue de l'histoire tourne comme la roue des saisons. La révélation biblique, la parole de Dieu, nous dit que ce monde a un sens, un but, une fin. Il a été créé par Dieu et pour sa gloire. Et l'histoire biblique a un sens unique. Elle va de la première création de Dieu à la nouvelle création en Christ. Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Nous ne sommes pas le fruit du hasard ou d'une quelconque évolution. Et il nous faut nous poser la question, est-ce que je suis un Dieu potentiel ou le résultat d'une évolution aléatoire qui me classe dans la catégorie des grands singes? Suis-je un Dieu potentiel ou suis-je un singe rationnel? C'est cette question-là qu'il faut nous poser. Parce que Dieu nous promet qu'un jour nous serons auprès de lui dans la gloire éternelle. En 1 Jean, chapitre 3, verset 2, « Alors nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. » Vous imaginez que vous êtes promis à un projet extraordinaire, celui d'être auprès de Dieu, semblable à lui, parce que nous allons le voir. C'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, les trônes, dominations, les autorités, les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. En tant que chrétiens, nous avons un chemin qui nous est tracé, qui nous permet de rester fidèles à cette parole, qui nous permet de ne pas dévier, qui nous permet de vivre avec cette espérance de la gloire en nous, celle qu'un jour nous serons auprès de lui, dans le bonheur parfait, avec tous ceux qui ont voulu suivre le Christ. Et c'est maintenant qu'il faut prendre cette décision. Vous l'avez la plupart déjà prise, mais il faut nous la rappeler tous les jours pour savoir que la vie sur terre est une vie d'attente, de l'attente de la gloire éternelle en Jésus-Christ. Amen.